Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Mignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est une conversation où habituellement j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé une maison de joaillerie qui s'appelle Gemio, que certains d'entre vous doivent connaître, notamment les Parisiens qui m'écoutent et qui ont sans doute vu notre petit chaton rose dans le métro. Et dans le cadre des conversations que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, des amis, des associés, ma famille ou des collègues, j'ai énormément appris, je me suis beaucoup nourrie. Et le podcast est simplement ma manière d'essayer de vous faire réfléchir aux enseignements que j'ai pu tirer avec ces personnes, de toutes les expériences de mes invités, pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies. Le podcast est publié une fois par semaine, le lundi matin à 6h15, et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast, donc qui est www.le-du6gratin.fr. J'ai souvent des personnes qui me demandent si, notamment les livres qui sont cités ou les sites internet qui sont cités sont trouvables quelque part. Eh bien, c'est pas forcément dans le descriptif de l'épisode, mais par contre, c'est systématiquement sur le blog du podcast www.le-du6gratin.fr. Donc, allez y faire un tour si jamais vous avez une petite recherche à faire. Et pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr de ne pas louper la sortie d'un nouvel épisode. Enfin, vous le savez maintenant, mais je le dis quand même, parce que c'est très important pour le podcast et pour moi, s'il vous plaît, le meilleur moyen de me le dire, et ce qui m'aide le plus en fait à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes. J'ai la chance grâce à vous d'avoir énormément d'avis 5 étoiles déjà, et je vous en remercie 1000 fois. Ça me fait mais vraiment, vraiment ma journée. À chaque fois que je vois des nouveaux avis passer, je les lis, donc je vous remercie 1000 fois. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, ça prend 2 minutes à faire, c'est un peu fastidieux. Je sais, en plus c'est que sur l'application iTunes, mais ça m'aide véritablement beaucoup. Donc un grand merci si vous prenez le temps de le faire et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, j'en termine avec, on va dire, ces petits détails d'intendance et j'attaque directement l'épisode du jour. Alors, pour parler de l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier. C'est un épisode qui n'est pas une interview. Je dis qu'il est un peu particulier, mais en réalité, j'en ai déjà fait quand même au moins 4 ou 5. Donc c'est un épisode de réponse à vos questions. Et ce que je fais en général, c'est que je pose des questions ou je reçois un certain nombre de questions sur mes réseaux sociaux, notamment donc sur Instagram, je dois dire, vous êtes très actifs et moi aussi. Donc mon compte Insta, c'est Pelignau, P-L-A-I-G-N-E-A-U. Mais après, ça peut être aussi sur LinkedIn, via le blog du podcast, en commentaire, sur Twitter. Donc un grand merci à tous ceux qui posent ces questions ou qui me font des petits mots sympas. N'hésitez pas à continuer à le faire. C'est super enrichissant pour moi et ça me permet mais aussi, du coup, comme vous l'avez compris, d'aborder avec vous d'autres types de questions que celles que je pose à mes invités. J'espère surtout que ça vous est utile. Donc on y va, j'attaque directement avec la première question. Et cette première question, elle m'est posée en fait assez régulièrement sur Instagram. J'ai noté un nom, mais je ne fais pas honneur à tous ceux qui m'ont posé cette question, donc j'en suis désolée. C'est la petite Sosof qui m'a posé cette question spécifiquement que j'ai notée. Je la remercie, mais je remercie aussi tous les autres, comme vous l'aurez compris. Donc la question est la suivante. Bonjour Pauline, j'espère que tu vas bien et que ta prépa au semi de Paris se passe comme tu veux, parce que effectivement, je me prépare au semi-marathon de Paris. Je suis moi-même assez peu sportive et je veux m'y mettre, mais je n'ai pas le mental pour le faire. Depuis combien de temps cours-tu et aurais-tu des conseils pour intégrer cette nouvelle routine à ma vie de jeune maman qui a un travail prenant ? Merci pour ton aide. Alors, salut Sophie, j'imagine, ou Sosof, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ton message et merci à tous les autres. C'est super intéressant comme question et je suis ravie de l'aborder parce que c'était pas évident, en fait, que je devienne une coureuse. Je suis pas encore la meilleure coureuse runneuse qui soit. Mais ce que je te propose, c'est que je vais te raconter ma progression pour que tu te rendes un petit peu compte que oui, c'est tout à fait possible de progresser et même d'aimer la course à pied, mais il faut y aller étape par étape. Alors en fait, moi, j'ai pas du tout commencé le running à l'âge de 3 ans avec des parents qui me faisaient faire de l'endurance. J'ai fait pas mal de sports étant plus jeune, mais je faisais essentiellement des sports de glisse, beaucoup de ski. J'ai fait aussi assez tôt, en fait, pas mal de sports aquatiques, mais pas du tout ni du vélo, ni de running, etc. Et j'ai commencé, en fait, assez tard le running, vers 30 ans, je dirais, traîné, je dois dire, par mon mari, qui, lui, est très bon, justement, en course à pied, enfin, dans tous les sports d'endurance. Et ma première course, si je suis tout à fait honnête, je pense que j'ai dû tenir 10 minutes, mais vraiment grand maximum. Je crachais mes poumons, j'avais mal partout, c'était un enfer. J'ai mis du temps avant de me décider à réessayer, parce que juste, ça avait été atroce. J'ai finalement décidé de le faire, mais franchement, courir plus de 20 minutes, c'était quelque chose qui était complètement impensable pour moi. C'était vraiment une horreur. Et j'ai d'ailleurs complètement abandonné la course à pied à ce moment-là, en me disant que c'était juste pas fait pour moi. Mais je sentais quand même quelque chose qui m'attirait dans ce sport, notamment parce que, bon, bah déjà, quand même, il faut le dire, c'est un sport où il n'y a pas tellement de temps de frottement, de déperdition de temps, parce que, bah, globalement, on met ses baskets et hop, c'est bon, on peut courir à peu près n'importe où, surtout quand on est quelqu'un qui voyage. C'est vrai que c'est très pratique de se dire, bah, t'as juste à prendre ta paire de baskets et ta tenue. Et contrairement à du vélo, contrairement à beaucoup d'autres sports, en fait, il n'y a pas de matériel particulier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'attirait, c'est qu'il faut quand même le dire, le rapport temps passé, calories est assez intéressant, parce que finalement, c'est quand même assez, dévoreur d'énergie, ce sport, voilà, mais c'était très très douloureux pour moi comme pour beaucoup d'autres personnes, et en plus je pense pas que j'avais de talent particulier, très honnêtement. Du coup, j'en ai fait un peu on and off pendant des années. Je pense que l'erreur d'ailleurs, c'était que j'essayais d'en faire trop, un peu le classique. J'essayais de partir pour 40 minutes ou 30 minutes même, alors qu'en fait j'avais pas le niveau et qu'il aurait fallu que je fasse 10-15 minutes grand maximum. Et du coup, si je vous raconte tout, je me suis vraiment mise sérieusement à la course à pied il y a un an. Donc, comme vous pouvez comprendre, c'est assez récent. Ça date de janvier 2018, peut-être novembre 2017, mais globalement, voilà, un peu plus d'un an. À l'époque, j'allais pas très bien. Je me posais pas mal de questions, notamment au niveau professionnel. Ça faisait 6 ans que j'avais créé Gémio avec mon mari et mon beau-frère, que ça se passait bien, mais que je me demandais un petit peu quelle était ma place dans la boîte et si je devais y rester, pour être tout à fait franche. Et du coup, c'était vraiment pas une période facile, parce que déjà je pouvais pas en parler autour de moi, à part à mon mari et mon beau-frère. Je savais pas ce que j'allais faire, enfin j'étais complètement paumée en réalité. Et du coup, ça a duré quand même assez longtemps, ça a duré plusieurs mois, et j'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment pas bien. Je sais pas si j'ai fait vraiment médicalement une dépression, mais en tout cas c'était une vraie grosse déprime. J'avais envie de parler à personne, enfin voilà, je m'étais un peu enfermée sur moi-même. Et du coup, bah, j'avais pas d'énergie, comme c'est souvent le cas dans ce genre de cas. Je travaillais pas très bien pour Gémio. Enfin, je faisais à peu près rien de bien. Et ça se passait, en plus, vous pouvez l'imaginer, pas très bien avec mon mari et aussi d'ailleurs avec mon associé. Et bref, j'avais un peu l'impression d'être complètement seule avec mes problèmes. Bah, figure-toi, Sosof, que c'est la course à pied qui m'a sauvée. Au bout de plusieurs mois de cette déprime, un petit peu, j'ai eu envie d'avoir quelque chose pour moi, un moment pour moi, un moment un peu de solitude où j'allais me retrouver avec moi-même, où j'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit, où je pouvais réfléchir aussi, et j'ai pensé au running. Enfin, sincèrement, ça m'est venu juste parce que je sentais que c'était un sport un peu solitaire et que j'allais pouvoir réfléchir, même si ça avait été très dur par le passé, le running, et que j'arrivais pas trop à courir plus de 10-15 minutes comme je disais. Bah, je sentais quand même qu'il y avait un potentiel au niveau un peu méditation, on va dire. Et donc cette fois, comme j'y allais pas pour la performance, comme j'y allais pas, tu vois, pour être plus mince, pour perdre du poids ou quoi que ce soit, que j'y allais juste, en fait, parce que je voulais ce moment-là avec moi-même, eh bien, ça a complètement changé mon état d'esprit et ma relation à la course à pied. De « je n'arrive pas à me lever pour y aller », ce qui était systématique, je me réveillais carrément avant la sonnerie du réveil le matin pour enfiler mes baskets. Donc, c'était quand même assez magique. Et je te rassure, j'étais quand même très nulle à l'époque. Je suis toujours pas très forte, mais à l'époque, j'étais vraiment très, très nulle. Mais en fait, je m'en fichais. Je le faisais pas pour ça, je le faisais parce que j'avais ce moment pour moi, une fois de plus, sans aucune pression. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps avant de commencer à faire des semi-marathons, ce genre de choses, parce que je ne voulais pas me confronter, en fait, à la pression de mes pairs, et que je voulais vraiment que ça reste mon moment pour moi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai peu à peu commencé à progresser, à me prendre au jeu aussi et à me construire des habitudes. L'une d'entre elles, tu t'en doutes, c'est d'écouter des podcasts pendant que je courais, parce que bah, c'était bien sympa d'être seule avec moi-même et avec mes pensées, mais bon, au bout d'un moment, quand on commence à courir un peu plus que 15 minutes, le temps paraît parfois un petit peu long pour ceux qui courent, je pense que vous le savez comme moi, et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à écouter des podcasts. Je me rappelle d'un ami américain qui m'avait dit « mais c'est génial, tu vas voir, ça va te changer la vie », et je me suis dit « tiens, pourquoi pas ?» Et donc, si je dois rendre à César ce qui est à César, c'est bien grâce à la course à pied que j'ai créé le gratin, parce que frustrée de ne pas trouver le podcast français qui me parlait vraiment, avec l'angle, on va dire, il y en a des très bien, mais avec l'angle qui me correspondait vraiment, eh bien, j'ai décidé de lancer le mien. Aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité, très honnêtement, à l'époque, qui était que, c'était il y a un an maintenant, un peu plus d'un an et demi, très honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de podcasts qui étaient des podcasts, en fait, des rediffusions d'émissions radio, RTL, etc., mais il y avait peu de podcasts natifs, et donc je me suis dit qu'il y avait certainement une place à prendre. C'est aussi parce que j'ai rapidement senti que le fait de rencontrer et d'interviewer des personnes inspirantes allait m'aider à me sentir mieux. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté parce que la combinaison, si je puis dire, course à pied, sport, nouvelle routine, plus podcast, plus rencontre, donc, m'a vraiment rapidement fait sortir de ma petite déprime et m'a d'ailleurs redonné un très fort regain d'énergie pour Gémio. Donc, comme quoi, tu vois, le sport et en l'occurrence aussi un nouveau projet qui m'inspirait m'a vraiment complètement changé la vie. Donc, ça pourra peut-être être le cas aussi pour toi, j'espère. Je m'éparpille un petit peu, je suis désolée, mais pour revenir à ta question, maintenant que tu connais mon historique de running, et c'était pas pour parler que de moi, mais c'était juste parce que je pense que c'est important de comprendre qu'on peut être nul de base, ne pas avoir de passé, de coureur de fond, et quand même s'en sortir, et quand même vraiment tomber dedans. Voilà, bah je voulais te donner en plus quelques petits conseils qui ont marché pour moi, pour que tu tiennes le coup. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est fais-le pour les bonnes raisons. Ça suit un peu ce que je disais précédemment. Il faut vraiment que tu sois sincèrement motivé, sinon tu vas pas tenir dans la durée sur la course à pied. La meilleure raison d'aller faire du sport pour moi, c'est pas, comme je le disais précédemment, de perdre du poids, c'est pas même d'être fit uniquement. Je pense que c'est vraiment lié au plaisir. Il faut que ça soit un plaisir. Donc si la course c'est pas ton truc, c'est pas grave, il y a plein d'autres sports top que tu peux essayer. Écoute d'ailleurs les épisodes du podcast avec Lucille Woodward ou avec Marine Leleu, tu verras. Donc c'est des sportives, qu'elles ne sont pas du tout focalisées sur une seule activité. Marine Leleu vient par exemple de terminer une course, enfin elle ne l'a pas terminée je crois, mais vient de faire une course en ski de fond alors qu'elle n'est pas du tout habituée à faire ça. Lucille Woodward, elle fait tout autant de la natation, de la course à pied, du workout, enfin sincèrement c'est hyper varié. Donc vraiment tente la course à pied, mais si c'est pas ça ton truc, c'est pas grave du tout, tu trouveras un autre sport qui te correspond mieux et surtout fais-le par plaisir pour les bonnes raisons. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est qu'il faut que tu commences petit. Donc, typiquement, ce que je n'ai pas fait. Le truc le plus important, c'est que tu te crées une habitude que tu vas garder dans le temps. Et si tu fais comme moi, donc l'erreur d'essayer de courir 10 km, 15 km dès tes premières sorties, tu ne vas jamais tenir. C'est une évidence. Donc commence par des runs très courts, 5 à 10 minutes, ça suffit, c'est très bien. Et surtout, félicite-toi de l'avoir fait. Profite du moment, enjoy, c'est le plus important. Je peux te recommander à cet égard d'ailleurs les exercices de running qui sont réalisés sur l'application de méditation Headspace. Alors moi, je les écoute pas régulièrement, mais je les fais de temps en temps juste pour voir parce que j'ai vu qu'ils avaient ça dans leur app. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est donc le Andy Petitcomme qui est le type qui est le gourou de Headspace, enfin je sais pas si on peut dire gourou, mais en tout cas la personne qui parle dans tous les exercices de Headspace, qui est donc une application de méditation, et qui là en l'occurrence est avec un coach, qui est le coach en charge du running chez Nike, et qui va t'accompagner si tu veux pendant une quinzaine de minutes dans tes premières sorties de running. Et je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait parce que justement ça incite vraiment à faire ce sport dans les bonnes conditions, en étant vraiment focalisé sur le plaisir, sur le fait de déjà se féliciter d'être sorti, de l'avoir fait, de pas se pousser trop fort. Et je pense que c'est une bonne manière d'apporter les choses parce que sinon tu vas te frustrer et vraisemblablement tu vas te dire que c'est impossible, que tu vas jamais y arriver et donc tu vas laisser tomber. Donc deuxième conseil, tu l'auras compris, c'est commencer petit. Troisième conseil, je pense, pour établir cette routine de running, c'est simplement de t'établir un planning et des garde-fous. Alors, si tu dis juste « je veux courir », c'est très bien, c'est déjà une première étape, on va dire. Mais tu peux être certaine que tu vas le faire 3 fois la première semaine et qu'ensuite, peu à peu, tu vas réduire la dose jusqu'à progressivement arrêter. C'est normal, c'est pas que t'as pas de volonté, c'est pas que t'as pas de mental, mais c'est juste comme ça. Du coup, le moyen pour moi de réussir justement à tenir dans le temps, c'est de te fixer un framework qui te convienne. Donc, il faut que tu réfléchisses à l'avance et que tu vas d'ailleurs pouvoir faire évoluer dans le temps si jamais c'est important pour toi. Mais commence par exemple 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, mais grand maximum, peut-être même une seule fois, j'en sais rien. Et sois vraiment spécifique aussi dans ce que tu vas décrire. C'est-à-dire que concrètement, tu peux dire tous les mercredis matin, de 7h à 7h20, je vais faire ma séance de running et je vais la faire où? Au parc là qui est en bas de chez moi. Donc vraiment hyper précis. Comme ça, tu es sûr que tu sais exactement ce qu'il faut faire et que tu ne vas pas trouver d'excuses. Il faut que tu puisses vraiment visualiser à quoi ta routine va ressembler. Sinon, tu ne pourras pas la suivre et pas vérifier aussi que tu t'y colles bien au niveau du temps. Par rapport au garde-fou, j'en parlais un petit peu aussi au début, de ce troisième point. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de noter ces créneaux dans ton agenda. Donc, typiquement, si tu as un Google Doc, ce genre de choses, je pense que ça va vraiment t'aider en fait de visualiser, si tu veux, que juste t'as ces créneaux qui sont déjà pré-remplis dans ton agenda. Et surtout, rends ces créneaux absolument indéboulonnables. C'est hyper important. Si tu pars en vacances, c'est pas une excuse. Tu prends tes chaussures de running avec toi, ça prend pas beaucoup de place, tu prends ta tenue et là, tu vas pouvoir te lever aussi là-bas un peu plus tôt. T'es pas obligé de le faire à 7h, peut-être que tu peux le faire à 9h et tu le décales dans ton agenda. Comme ça, tu es sûr que tu peux le faire. Si tu dois te lever un peu plus tôt un jour, un mercredi donc, pour aller au travail, eh bien tu l'anticipes, tu le mets dans ton agenda, pareil, et tu sais que ta séance, ce jour-là, soit elle est plus tôt, soit tu peux même la décaler par exemple à mardi dans ton agenda. Mais tu l'anticipes, tu sais que cette séance, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas devoir la faire. Et crois-moi, pour tenir une routine, il ne faut pas forcément avoir un mental d'acier, ça c'est un peu le gros mythe. Il faut juste anticiper ses faiblesses, savoir en fait qu'on est faible, l'accepter si tu veux, et avec un système, se forcer en fait à accomplir ce que tu t'es fixé comme objectif. L'agenda pour ça et les garde-fous, comme je le disais, sont un très bon moyen de le faire. Donc ça, c'était le troisième petit conseil. Le quatrième, qui va toujours dans ce sens, c'est d'utiliser la pression de tes pairs. Et ça marche toujours. Je te donne un exemple. Je fais moi-même 2 séances de sport avec un coach par semaine à 6h15 du matin. C'est un peu dur de se lever à 6h du matin. Et au-delà du fait que mon coach Igor, que vous connaissez pour ceux qui me suivent sur Instagram, me pousse à sortir de ma zone de confort, le fait qu'il vienne à 6h15 tapante en bas de chez moi me force forcément à me lever. Je vais pas quand même le laisser dehors sous la pluie à m'attendre un jour, tu vois, où je suis juste fatiguée. Non, même si j'ai mal dormi, en fait, je suis obligée de me lever. Du coup, je rate jamais une séance. Et sans avoir à passer par un coach, tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde n'en a pas envie, avoir un rendez-vous avec un ami, avec ton mari, avec un club aussi, il y a plein de clubs de running qui sont gratuits dans Paris par exemple, mais même aussi dans d'autres villes de France. Qui sait, je pense que ça te forcera à naturellement respecter ton planning. Et si personne ne veut courir avec toi, si tu n'arrives pas à te trouver un buddy, comme on dit aux États-Unis, justement pour suivre ta routine, ce que tu peux faire aussi, c'est simplement en fait... Et d'ailleurs, c'est aussi si tu souhaites t'entraîner seul, bien évidemment. Mais ce que tu peux faire, donc, c'est tout simplement demander à une personne de confiance de systématiquement te demander, vérifier que tu as bien fait ta course à pied le mercredi matin à 7h. Sinon, à toi de déterminer ce que tu fais. Mais par exemple, tu lui donnes 5€, 10€, j'en sais rien. Mais en gros, avoir une personne qui va être en gros responsable de te fliquer pour être sûr que tu fais bien ton travail. Et crois-moi que c'est un bel incentive en général pour ne pas rater une session. Et enfin, le dernier point, le cinquième point pour terminer, c'est qu'il faut que tu apprennes aussi à te récompenser. C'est hyper important, il faut que tu te récompenses pour chaque séance accomplie. Trouve ton petit rituel, ton truc à toi, ton plaisir lié à la course. Pour moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur la news du gratin, donc qui est la newsletter que je fais en plus du podcast. Il s'agit de me faire tout simplement un délicieux chocolat chaud que je fais avec du chocolat Von Houten, pour être très précise, et non sucré. Et ce qui est assez génial, c'est comme je le fais uniquement, si tu veux, une fois que j'ai fait ma séance de course à pied, en fait, je vais directement associer ma séance de running à ce moment de plaisir. Et donc, en fait, c'est presque un plaisir d'aller faire ma séance de course à pied parce que je sais que je vais avoir mon chocolat chaud que j'adore et sinon, en fait, je ne m'autorise pas à en boire. Donc, Donc voilà, ça c'est la mienne. Après, tu peux te trouver autre chose. Il faut éviter de, j'imagine, manger un énorme burger à chaque fois que tu fais ta séance de course à pied parce que c'est pas forcément, on va dire, dans la même veine au niveau de tes objectifs. Si c'est pour être fit, faut peut-être que tu trouves quelque chose qui va dans le sens d'être fit. Mais trouve-toi une récompense qui te fasse réellement plaisir et instaure-la à chaque fois que tu cours. Voilà, Sosof, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis allée un petit peu plus large parce que je vous ai quand même pas mal parlé de ma vie, mais j'espère que ça te sera utile pour réussir à te créer ta routine de sport ou d'ailleurs toute autre routine, parce que bien évidemment, ces conseils valent tout autant pour faire du running que pour, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire comme routine. Par exemple, tous les matins, te lever, faire ta méditation, tous les soirs, lire un livre, peu importe à la rigueur ce que tu décides de faire, mais je pense que ça peut être assez utile. Alors maintenant, on passe à la deuxième question, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est plutôt un point, un sujet que je voulais aborder parce qu'il compte pour moi et que je l'aborde souvent avec mes amis et avec aussi les personnes que j'interviewe dans le podcast, mais plutôt en off. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant justement de prendre quelques instants pour vous en parler. Alors, grand mystère, vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, mais il s'agit de notre gestion collective, de notre temps d'écran et de notre addiction à nos mobiles et à tout ce qui est ordinateur et écran de façon générale. Alors, je dois avouer pour commencer que pendant des années, et notamment depuis la création de Gemio, je suis devenue complètement addict à toutes sortes d'écrans. Je suis pas la seule dans ce cas-là, évidemment, mais c'est quand même suffisamment important pour que je fasse mon coming out. Donc, téléphone, ordinateur en particulier. J'ai jamais été trop télé, j'en ai pas chez moi, donc c'était vraiment plutôt concentré sur téléphone et ordinateur. Mais disons que le pire dans cette histoire, c'est que je me rendais pas compte de mon état. Et vous allez me dire, c'est ça le propre de l'addiction. On pense qu'on peut s'en sortir, qu'on n'est pas vraiment accro. Effectivement, donc j'étais bien addict. Et ce sujet était d'ailleurs devenu, je dois l'admettre aussi, l'un de mes sujets de dispute les plus violents avec mon mari, qui lui, n'est pas du tout accro et une relation assez saine à l'informatique et donc arrive assez bien à laisser son téléphone dans un coin sans s'en soucier. Donc on n'arrêtait pas de s'engueuler à ce sujet parce que évidemment compulsivement j'arrêtais pas de prendre mon téléphone alors qu'il me parlait, alors qu'on était en amoureux, etc. Moi à l'inverse, mes comportements dont j'ai honte aujourd'hui mais que je vous partage, c'était plutôt déjà que mon téléphone était avec moi à tout moment du jour ou de la nuit. Mon premier réflexe en me réveillant, c'était évidemment de le consulter, même s'il était 4 heures du matin et que je me réveillais au milieu de la nuit. C'était la première chose que je faisais avant de, voilà, pour essayer de me rendormir, ce qui est pas très malin. C'était aussi la dernière chose que je faisais avant de m'endormir. Pareil, pas très malin. Parfois même, je dois l'admettre, caché sous la couette parce que mon mari dormait. Donc voilà, je pouvais surfer sur le net, sur des sites débiles ou Instagram ou Facebook, etc. pendant 20 minutes sans que ça n'ait un intérêt particulier. Vous allez dire que c'est classique, c'est vrai, mais c'est quand même assez débile. En plus de ça, comme de nombreux d'entre vous sans doute, j'avais la fâcheuse habitude de prendre mon téléphone avec moi pour toute réunion de travail, de le regarder machinalement. Je regardais même pas des trucs intéressants pendant une réunion de travail alors que quelqu'un me parlait, au restaurant alors que j'étais avec des amis, avec mon mari, enfin n'importe quoi, alors que j'aurais mieux fait de profiter d'eux. Et j'avais évidemment la fâcheuse habitude de le dégainer dès que j'étais seule un instant parce qu'on déteste être seule, où que je sois, donc dans le métro, etc. Peu importe. J'ai pris conscience de mon problème en plusieurs étapes. Ça n'a pas été comme ça une révélation un jour. Mais d'abord, je dirais que je suis tombée sur le fameux talk de Simon Sinek sur les millennials, que vous avez certainement vu. Il a fait des millions de vues. C'est un talk absolument génial et je le mettrai en note. D'ailleurs, donc sur le site www.legratin.fr pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est vraiment un must et en plus qui est assez hilarant. Donc j'ai vu ce talk de Simon Sinek un jour par hasard et je me suis rendu compte que j'étais exactement dans le cas qu'il décrivait, c'est-à-dire que mon téléphone était mon réveil matin, qu'il fallait que je le garde à 2 cm de ma tête en dormant et que tout ça était probablement un signe de forte pathologie, que en fait je me refusais à acheter un réveil matin en disant non mais en fait il me faut mon téléphone pour pouvoir justement me réveiller, mais en fait non, j'aurais très bien pu acheter un réveil matin à 2 € et ça aurait fait tout à fait l'affaire. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape de la prise de conscience, c'est quand je me suis un peu prise en auto flagrant délit de mensonge. Mon mari me demande un soir, vous avez compris que c'est le sujet qui le tendait un petit peu, si je suis sur mon téléphone alors qu'il vient de s'absenter pour aller aux toilettes quand on était dans un restaurant et on faisait une soirée en amoureux. Et je lui dis non. Et à ce stade, évidemment, mon téléphone est en fait caché sur mes genoux. Et là, j'ai eu un espèce de moment de recul fou, alors que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Je réalise que je suis tellement accro que je mens à l'homme que j'aime sur un sujet qui en plus est absolument débile et sans intérêt, juste parce que j'ai honte en plus de mon attitude et de mon addiction. Donc ça s'appelle être malade, et à ce stade, il m'est apparu assez évident qu'il fallait que j'agisse et que je me reprenne en main. Malheureusement, c'est pas simple, et donc maintenant, c'est la deuxième partie de cette petite de ce petit point sur la détox digitale, c'est de vous expliquer comment j'ai essayé de changer cette habitude. Et comme pour tout changement d'habitude profond, j'ai mis évidemment du temps à mettre en place des routines qui fonctionnent vraiment, mais je pense pouvoir dire aujourd'hui que j'ai réussi à me détoxifier l'esprit de tout ce qui est écran. Alors, je vous rassure tout de suite, je voulais quand même faire un caveat parce que j'ai bien conscience de la contradiction totale du fait de parler de trop plein de consommation d'écran et de détox digital quand on est comme moi déjà à la tête d'une boîte qui vend la joaillerie en ligne, où je passe le plus clair de mes journées devant mon ordinateur, qu'en plus j'ai créé un podcast que vous écoutez tous certainement sur votre téléphone et que moi-même j'en écoute beaucoup sur mon téléphone, qu'en plus je vous parle tout le temps d'applications, d'outils de productivité en tout genre, et que cerise sur le gâteau, je suis assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Donc vous allez me dire, la fille, elle nous parle de détox digital, on ne connaît pas quelqu'un qui est plus souvent connecté qu'elle. Je comprends la contradiction. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas une gourou de la détox digitale, mais que mon objectif, en vous parlant de ça, c'est pas de vous faire croire que je suis parfaitement guérie, c'est pas de vous faire croire non plus que j'ai une solution miracle. Je pense simplement que mon exemple est d'une inoriginalité assez pathétique en réalité, et que vous êtes peut-être malheureusement nombreux dans une situation similaire, et que peut-être, en vous rendant compte à votre tour que voilà, bah, vous avez ce même problème, eh bien, vous allez ensuite vouloir vous en sortir et avoir une relation saine à vos écrans. Donc c'est vraiment l'objectif. Et le deuxième objectif, vous verrez, c'est évidemment de vous partager ce que j'ai amélioré dans ma vie pour être quand même dans une relation, comme je disais, plus saine à mes écrans, même si je continue bien sûr à avoir une consommation. Si vous, justement, vous souhaitez changer, eh bien, je pense que mon exemple peut vous être utile. Déjà, je peux vous dire, et c'est une première réussite, que j'ai réussi partiellement à m'en sortir. Donc, il y a un message d'espoir pour vous. On peut avoir une vie professionnelle active dans la tech tout en ayant une relation saine à son téléphone. C'est possible. Donc, si vous dites que vous travaillez beaucoup, que vous devez tout le temps être connecté à tout moment, eh bien, laissez-moi vous dire que malheureusement, c'est un symptôme de l'addiction. Ça n'est pas une réalité. Deuxièmement, je voulais aussi simplement partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi. Je ne suis pas sûre du tout que ça va vous aider. J'ai pas, comme je le disais, de recette miracle, mais j'imagine que si vous avez ce problème, vous n'avez pas grand-chose à perdre à essayer. Alors, voici mes petits trucs pour réussir à s'auto-guérir de cette fâcheuse condition. Premièrement, le point le plus important, c'est d'admettre qu'on est accro. Donc là, ce que je viens de faire pendant 10 minutes, désolé, c'était un petit peu long. Et de décider qu'on veut s'en sortir. Après, le reste, ça consiste sincèrement juste à mettre, et c'est comme pour les routines de sport dont je parlais précédemment, en place un système pour y parvenir. Donc, mais si la volonté n'est pas là, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas vous en sortir, c'est sûr. Mais ce qu'il faut être quand même, là où il faut être clair, c'est que le système, c'est ça qui va vraiment faire que vous allez complètement changer votre attitude. Donc si vous êtes comme moi à l'époque, respirez un bon coup, essayez de prendre un peu de recul sur vous-même, essayez peut-être aussi de réfléchir, je sais pas, au nombre de fois que vous avez saisi votre téléphone dans les 3 dernières heures, et décidez si vous voulez vraiment réduire cette dose. Si c'est le cas, deuxième point, on met en place un système. Et donc, si vous voulez changer, ne comptez pas sur votre volonté. Comme je disais, comptez sur des règles et aidez-vous à les suivre. Pour moi, la règle la plus importante est celle que je suis envers et contre tout. C'est simplement de mettre mon portable à charger dès que je rentre chez moi. Donc, je ne l'ai plus dans ma poche, je ne l'ai plus dans mon sac, je n'ai plus sur moi, je n'y touche plus pour regarder mes mails ou les réseaux sociaux. Il est à charger. Il se trouve que je vis dans un appartement avec une mezzanine. Donc, en plus, la mezzanine ayant la chambre, il est assez loin de ma chambre puisque je le laisse en bas. Et donc, j'en suis assez loin. Et du coup, ce qui est assez formidable, c'est qu'il redevient ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un téléphone. Et donc, on peut m'appeler, on peut m'envoyer des SMS, mais c'est tout. Et si j'ai besoin de faire quelque chose d'urgent pour le travail, eh bien, je peux le faire via mon ordinateur, que j'ai aussi, qui est en général fermé. Mais du coup, je ne suis pas obligée de compulsivement aller sur mon téléphone pour le faire. Et d'ailleurs, en général, j'évite même cela et je préfère me noter ce que j'ai à faire et le gérer le lendemain. C'est rarement urgent à une heure près. Un autre outil pour réduire ma consommation, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications, sauf le téléphone et les SMS donc, tous les réseaux sociaux, Slack, qui est donc une application de messagerie qu'on utilise chez Gemio, les applications en tout genre, ou même WhatsApp, sont désactivées. Donc j'ai plein de messages dessus, parfois je les regarde, je prends le temps de le faire, mais c'est pas du tout compulsif, et en tout cas je ne suis pas en permanence interrompue. Je ne suis plus déconcentrée par toutes ces notifications, et je le suis seulement en fait quand il y a vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire un coup de téléphone ou un SMS. Et j'ai d'ailleurs indiqué à mes proches et à mes collaborateurs qu'en cas d'urgence, il fallait me joindre par téléphone ou SMS, certainement pas par WhatsApp parce que je, en général, je les lis avec 2 jours de retard. Le troisième outil qui est disponible sur Apple, et je ne sais pas si c'est le cas chez d'autres marques, je vais être honnête, donc à checker, j'utilise l'outil de limitation de temps d'écran pour monitorer ma consommation et surtout pour automatiquement interdire l'accès à mes applis entre 8h du matin et 21h le soir. Donc concrètement, entre 8h du matin et 21h le soir, quand je prends mon téléphone, il y a marqué limitation du temps d'écran. Si je clique par exemple, je sais pas, sur mes mails, je vais devoir appuyer sur un bouton spécifique qui me dit que je dois autoriser 15 minutes de plus, le fait de ne pas limiter cette application-là et donc de pouvoir la consulter, ce qui me fait prendre conscience que je suis en train de fauter, et donc ça m'incite quand même à réfléchir 2 secondes si je suis en train de faire quelque chose qui va être vraiment urgent, important, ou si en fait il vaut mieux que je repose tranquillement mon téléphone et que je ne suis juste qu'en train de, une fois de plus, succomber à mon addiction. Donc au final, ce qui est assez génial avec cet outil-là, c'est que ma consommation mobile est naturellement retomber dans quelque chose de, je pense, beaucoup plus raisonnable, qui est autour de 1h, 1h30 par jour, ce qui est déjà beaucoup quand on y pense, parce qu'on dit quand même 1h30, on pourrait faire plein de choses, mais c'est quand même beaucoup plus raisonnable qu'à une époque où j'étais probablement plutôt autour de 3h. Donc voilà, j'espère que ce petit moment spécial détox digital et surtout avec mes petits trucs pour en sortir vous aura aidé. Je pense qu'il n'y a pas de honte en fait à être un petit peu accro à son téléphone. C'est un peu le mal du siècle, hein. Je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là. En tout cas, moi je peux vous dire que je suis ravie de m'en être un petit peu sortie. Et aussi pour reparler un petit peu des invités du podcast, j'en parlais par exemple avec Augustin de Michel Augustin, avec Sarah Danint, la championne du monde d'escrime. Je pense qu'on vit tous dans un monde qui est tellement connecté qu'on se rend compte qu'on est tous devenus accro quand même à ces téléphones, et je pense que mettre en place quelques petites règles simples d'hygiène de vie tout simplement nous permet juste de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose qui était devenu un peu trop partie prenante, je pense, dans nos vies à tous. Voilà, assez parlé de détox digital. Je passe à la troisième et dernière question, qui est bien une question cette fois, sur Instagram, de quelqu'un qui s'appelle sur Instagram Demagnani, et qui me dit « Ciao Pauline, merci pour tes podcasts, j'adore, c'est gentil, merci. J'ai créé une boîte dans le prêt-à-porter encore toute petite, on n'est pas Cézanne, et tout le monde autour de moi me dit qu'il faut que je négocie mieux les prix de mes fournisseurs, sinon je vais me faire avaler tout cru. Je suis quelqu'un de plutôt timide et introverti, je n'ai jamais appris à négocier. Aurais-tu des astuces à me donner pour ne pas me faire avoir ? Merci et bonne soirée. » Alors, merci beaucoup pour ce message. J'ai pas ton prénom, donc je peux pas te remercier formellement. Mais j'ai trouvé que le sujet, il était assez intéressant. On l'avait un petit peu traité dans l'épisode avec Alexandre Dana où on répondait à des questions des auditeurs déjà. Mais donc, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et je pense que j'étais pas rentrée beaucoup dans le détail. Donc, j'ai préféré y revenir et cette fois structurer un petit peu plus ma pensée. Donc plusieurs choses. Premier point, déjà, pour te rassurer, Demagnani, on ne n'est pas bon en négociation. On pratique la négociation et on s'améliore. C'est comme tout, c'est comme le ski, c'est comme la natation, c'est comme la course à pied. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient naturellement doués. Je pense même qu'inconsciemment, les personnes qui, on pense, sont douées sont en fait des personnes qui pratiquent depuis qu'ils sont petits. Peut-être ont des exemples aussi de parents qui pratiquent et qui leur ont montré ce que c'était que la négociation, que ce soit à l'école avec la maîtresse, les copains, les parents, etc. C'est tout ça est assez culturel quand même. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu t'entraînes un peu, tu vas rapidement progresser. Et je te donne mon exemple une fois de plus, désolé messieurs dames, mais je ne peux parler que de ça puisque je ne connais que ça. J'étais quelqu'un de plutôt timide, réservé étant petite et juste ne savait même pas ce que c'était que de la négociation. Enfin, je pense qu'il faut être assez clair. Donc rien n'allait m'amener à bien négocier. Pourtant aujourd'hui, je pense sans vouloir être prétentieuse que c'est vraiment une de mes grandes forces et que j'ai mis toutes les chances de mon côté d'ailleurs pour ça. Déjà premièrement, comme j'étais très timide et que j'ai voulu m'en sortir, j'en parle dans l'épisode 4 du podcast qui était aussi une séance de réponse à vos questions. J'ai appris à prendre la parole en public, notamment via des cours de théâtre, de debating, de débat donc, et maintenant par exemple le podcast ou beaucoup de relations publiques avec Gémio, et donc j'ai énormément progressé. J'étais pas naturellement douée pour parler toute seule devant un micro. Maintenant, je pense que je le fais un petit peu mieux. J'ai encore à progresser certainement, mais c'est un petit peu mieux. Donc tu peux aussi progresser, tu peux aussi prendre le sujet à cœur et tâcher de t'entraîner. Ça peut être un petit peu désagréable parfois, mais il ne faut pas hésiter. Tu peux le faire avec tes fournisseurs, avec des partenaires, en apprenant à convaincre de façon plus générale. Ce n'est pas forcément de la négociation à proprement parler. Je pense que c'est de la communication, c'est du débat. Ça peut être à l'écrit, via des communiqués de presse où tu essayes de vendre finalement ta marque. Ça peut être intéressant de le faire de cette manière-là. Ou aussi à l'oral, par exemple, en débattant avec tes amis, ta famille. Force-toi, d'une certaine manière, à juste essayer de convaincre. Je pense que c'est quelque chose qui pourra beaucoup t'aider ensuite en négociation. Le deuxième point, c'est que je ne crois pas du tout à la négociation pour la négociation. Je pense qu'on est un peu dans un monde où on pense que pour être un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires, voilà, il faut être très bon, très coriace, très bon en négociation. Je pense qu'en vrai, une bonne négociation est toujours plutôt issue d'une vision long terme. Et que si tu presses tes fournisseurs comme des citrons, ils voudront pas le bien de ta boîte. Et dès que tu seras un peu plus faible, dès que tu auras le dos tourné, ils vont inverser le rapport de force et que tu seras pas très content de ça. Donc ma conviction profonde et ce qu'on a essayé de faire avec Gémio, c'est que être un bon négociateur, c'est pas d'arnaquer les autres, c'est plutôt de faire en sorte de leur apporter vraiment de la valeur, de leur apporter ce dont ils ont besoin, de leur faire valoir et de récupérer ensuite ce qui, toi t'importe en échange. Je te donne un exemple parce que c'est peut-être pas très clair. J'ai un réseau maintenant qui est assez important dans le milieu des startups en France et on le sait notamment via le podcast, j'ai une certaine influence sur mon audience, on va dire, quand je parle d'un sujet. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être leveragé, qui peut compter pour certains de mes fournisseurs, qui est finalement un atout. Des prestataires marketing, par exemple, qui, en échange d'un meilleur tarif ou d'un accompagnement ultra personnalisé, me demandent de parler d'eux autour de moi, ça, c'est quelque chose d'envisageable. C'est ce que j'appelle un accord gagnant-gagnant. Je suis contente, ils sont contents, tout se passe bien. On est vraiment plus dans le partenariat au final que dans la négociation à proprement parler. Parce que si j'avais été voir ces prestataires ou ces fournisseurs et que j'avais attaqué frontalement en leur disant « Oh là là, je veux un tarif inférieur de 30% à ce que vous me proposez, c'est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens, c'est une arnaque votre truc » ou « Je pense même que c'est une arnaque », sans essayer de comprendre ce dont ils ont besoin réellement, je pense qu'en fait je me serais juste retrouvée à avoir soit un non définitif, soit peut-être à réussir à avoir un tarif inférieur parce qu'ils auraient voulu quand même m'avoir comme client, mais en ayant très probablement un moins bon service parce que j'ai pas quand même les mêmes dépenses marketing que des budgets comme la Fnac. Donc forcément, j'aurais pas obtenu grand-chose juste en essayant de négocier sans aucune contrepartie, si tu veux, derrière. Donc ça, c'est évident qu'il ne faut pas faire ça. Je pense que le fait de penser que tu as réussi à négocier juste parce que tu as eu 30% de moins, alors qu'en réalité, tu vas juste avoir un moins bon service, c'est probablement la pire chose que tu puisses faire. Ils vont pas bien s'occuper de ton compte client, c'est pire que tout. Alors que si, à l'inverse, tu arrives à comprendre ce qui leur importe vraiment, donc en l'occurrence, là par exemple, ça serait avoir notre budget, mais aussi par exemple donc une validation, une réputation sur le marché qui est d'être un prestataire compétent, qui fait du bon travail et qui s'occupe très bien de ses clients. Et moi, je serais ravie de le faire si ça se passe effectivement bien. Eh bien, je vais pouvoir leur faire cette proposition et leur dire, bien voilà, si jamais vous me faites un meilleur prix, tout simplement, je vais pouvoir parler en bien de vous. Et peut-être que ça les intéressera. Et peut-être que donc, j'aurai ce deal qui sera vraiment intéressant. Donc ça pour dire que être bon en égo, pour moi, c'est pas vraiment être marchand de tapis. C'est pas juste vouloir négocier pour négocier. C'est avoir de l'empathie et servir aux personnes avec lesquelles tu vas travailler vraiment ce qu'ils veulent. Au fond, parfois ils ne le savent même pas, sur un plateau d'argent. À chaque fois que tu te lances dans une négo avec un fournisseur, un partenaire, peu importe, pense à ça et force-toi à être créatif. Tu verras que tu pourras économiser à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Le troisième conseil pour bien négocier, je pense, après s'entraîner et opter donc pour des accords gagnant-gagnant, c'est être patient. Quand on lance sa boîte, on n'a globalement aucun leverage sur ses fournisseurs, c'est normal. T'as pas de volume à ce moment-là, t'as pas encore de notoriété, t'as pas de perspective sûre. Et du coup, c'est normal que tes fournisseurs prennent un risque en travaillant avec toi. Donc, je pense que c'est pas forcément le moment, en plus, déjà qu'ils prennent un risque, de leur demander de réduire leur marge. Sinon, ils vont faire n'importe quoi avec tes produits s'ils ne s'y retrouvent pas, comme je le disais précédemment. Donc, mon conseil, ça serait plutôt de faire ce qu'on a fait avec Gemio, c'est-à-dire de se faire d'abord aimer de ses fournisseurs, d'être fiable, de bien s'occuper d'eux, de bien les traiter et de ne pas négocier dans un premier temps. Et le moment venu, plus tard, quelques années plus tard, quand le rapport de force sera inversé, quand tu auras un rapport de confiance qui aura été créé, eh bien là, tu pourras revenir à la charge et négocier. Et à ce stade, quand là, tu es en train de créer ton entreprise, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu n'es pas encore en train d'essayer de négocier 1% de marge ou d'avoir un tout petit peu un meilleur prix pour tes clients. Ce que tu veux à ce stade, c'est vraiment juste d'être capable de produire et de vendre tes produits, mais pas forcément d'avoir un EBITDA à 30%. Donc, la patience, je pense, est clé. Et dis-toi que c'est pas pour autant que tu ne vas pas négocier plus tard, mais je pense qu'il est illusoire de se dire que tu vas réussir à bien négocier dès le début de ton entreprise, quand en tout cas tu n'as rien à proposer en échange. Le quatrième et dernier conseil, c'est un conseil aussi important, je pense, c'est de décider à l'avance jusqu'où tu es prêt à aller. Et aussi, ce qui, à l'inverse, est une condition inacceptable que tu ne pourras donc pas suivre si jamais ton fournisseur ou partenaire te propose ça. Donc, une technique basique des fournisseurs ou un fonds d'investissement aussi ou d'un banquier, peu importe, c'est de dire « ne t'inquiète pas, on veut vraiment faire le deal, on n'a quasiment rien à négocier ». Il gagne du temps. Il commence comme ça, en gros, il t'arnache, quoi, si je puis dire, et peu à peu, au fil des semaines, ils vont rajouter des clauses à droite, à gauche, qui sont de plus en plus pénalisantes pour toi. C'est pas forcément mal intentionné en plus, hein. Parfois, il y en a certains qui font ça en se disant sincèrement qu'il va pas y avoir beaucoup de négociations, mais au final, en se rendant compte, ben voilà, en creusant ton dossier, vont vouloir en fait rajouter des clauses qui sont pénalisantes pour toi. Et comme toi, tu passes de plus en plus de temps sur le deal, t'as de moins en moins envie de le laisser passer, c'est normal. Et donc ça loupe pas, tu finis par signer un deal qui n'est pas bon, qui est nul pour toi, juste parce que tu y as consacré beaucoup trop de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept de la sunk cost fallacy en anglais, ou du coût irrécupérable en français, qui a été théorisé par des économistes qui sont Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui sont deux prix Nobel de l'économie. En économie comportementale. Et en gros, l'idée, c'est de dire que comme notre cerveau déteste perdre, on est complètement averse au risque, bah, en gros, on va s'entêter et probablement aller trop loin dans ce qu'on accepte de lâcher juste parce que, bah, on s'est fait à l'idée qu'on allait faire ce deal et qu'on a l'impression d'avoir déjà perdu tellement de temps et d'avoir déjà tellement investi qu'en fait, ça serait une erreur de ne pas le faire. Mais l'erreur, c'est pas de ne pas le faire, l'erreur au contraire, c'est de se dire que c'est une bonne chose de céder. Et donc dis-toi que le coût d'opportunité de passer du temps sur un mauvais deal est beaucoup plus faible que le coût de faire ce mauvais deal. Tu as passé du temps dessus, ok, d'accord, mais so what ? C'est pas pour autant que tu dois dire oui. Donc mon conseil pour éviter ça, c'est simplement de décider en amont de la négociation ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Dès que tu passes la limite, tu dois être intraitable et dire non. Il n'y a pas d'autre choix. Le fait de ne pas avoir peur de rater le deal, en plus, je vais te dire un truc, c'est l'un des meilleurs moyens de créer du désir auprès de la personne avec qui tu négocies. Elle aura la sensation, elle va le sentir, qu'elle a plus à perdre que toi à ne pas le faire le deal. Bref, c'est tout bénef. Et les meilleurs deals qu'on a pu faire avec Gemio, c'est systématiquement la même chose. C'est des deals où, en fait, on était ravis de le faire, mais bon, il n'y avait pas mort d'homme si on ne le faisait pas, parce qu'en fait, l'autre personne le sent, et donc, naturellement, va juste inverser le rapport de force et te permettre d'avoir ce que tu veux. Voilà, je pense avoir répondu à ta question et j'espère, en tout cas, l'avoir fait de façon utile pour toi et peut-être pour d'autres aussi. C'est terminé pour aujourd'hui pour les réponses à vos questions. C'était un petit peu plus court que d'habitude comme épisode, mais j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile surtout. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres que je cite, vous l'avez compris maintenant, c'est simple, vous pouvez aller directement sur le site du podcast www.le-6gratin.fr rubrique podcast sur l'épisode du jour. Je l'ai mentionné très rapidement, mais j'ai maintenant également la news du gratin, qui est donc une petite newsletter qui part tous les vendredis matin. Une petite dose juste avant le week-end pour vous mettre du baume au cœur qui est très rapide à lire. Normalement, ça prend 5 minutes et c'est un peu mes découvertes du moment. L'idée, c'était de me dire que le podcast étant un médium assez de temps long, où vous prenez un petit peu de temps à l'écouter, bah, je voulais aussi vous fournir un contenu qui est beaucoup plus rapide à consommer pour que voilà, vous puissiez juste le faire à vos moments perdus. Et voilà, et donc j'espère qu'elle vous plaît. Pour vous inscrire, il suffit simplement d'aller aussi sur le site du gratin, donc www.le-6gratin.fr. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour dans le podcast ou juste me faire un feedback sur ce format, c'est très utile pour moi, eh bien, vous pouvez le faire directement sur Twitter, Instagram avec le pseudonyme Pelenio. Ne soyez pas addict à votre téléphone, mais vous pouvez quand même me mettre un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Et comme à chaque fois, je voulais prendre quelques instants pour vraiment vous remercier, vous dire mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai encore plein de questions qui m'ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu, mais j'espère que je le ferai dans les prochaines réponse à vos questions. Et si le format vous plaît, que vous appréciez ce travail, eh bien dites-le moi, mettez une note sur iTunes ou sur Insta, je lis tout ça et ça me permettra de savoir si je continue les réponses à vos questions. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.